France Inter, franceinter.com.
Bienvenue dans Ce haut de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de consommer en rond, en tout cas qui essaye avec aujourd'hui la technique Michel Bertin, Alain Gadan et puis à France Bleu Isère, Vincent Elie. Assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors, une petite humeur du patrimoine. Oui, allons-y, journée du patrimoine, certes, mais un patrimoine version nature, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas que Marignan 1515 dans la vie, les musées, les châteaux, les palais de la République. Ceci avant que nous visitions les futures ruines de l'âge d'or de la finance mondiale. Le patrimoine nature, lui, est ouvert tous les jours. Pas besoin de s'essuyer les pieds à l'entrée pour visiter notre collection d'artistes anonymes. Golfe de Porto, Fjord de Norvège, Tassilia Nadjer, Aubrac, forêt de Madagascar, delta du Danube. La visite se fait à pied, vélo, dos d'âne ou en chameau. Et puis, c'est pratique pour déjeuner. On apporte son pique-nique. Sauf que là, attention, vous m'oubliez les gobelets, les fourchettes plastiques, parce qu'avec une espérance de vie de plusieurs centaines d'années et une durée utile de quelques minutes, eh bien les déchets durables, c'est pas bon pour le patrimoine. Vous voyez où je vais en arriver, bien sûr. Fiscalité verte, sujet tout à fait épineux cette semaine, donc le gouvernement a sifflé le hors-jeu. Jean-Louis et Nathalie, la partie est finie, maintenant vous attendez des arbitrages parce que vos taxes écolo, hein, c'est gentil, mais en période de disette financière, malus à vous. Enfin, du réalisme comme on l'aime. Enterrons vite ces trucs d'écolo qui osent donner un prix aux problèmes que nous rencontrons. Mais allons plus loin, puisque la vision à long terme est arrangée au rayon des accessoires du patrimoine politique. Allons chercher la croissance mondiale dans les puits de pétrole d'Arctique ou d'Alaska. Commençons par sauver l'économie, ça on l'a bien compris. Subventionnons les produits énergétivores. Bah oui, plus tu consommes d'énergie, plus tu dépenses, plus tu es un bon citoyen. Bonus aux écrans plats, aux billets d'avion à bas coût, aux lingettes, aux fruits et légumes qui ont fait le tour du monde. Malus aux lampes solaires, aux vélos électriques, aux ONG et associations qui vantent la modération. Pour le tabac, ah bah là pas de problème parce que c'est une drogue légale, donc on va taxer à mort, c'est le cas de le dire. Au bout du compte, ça ne changera pas grand-chose. Pollution ou tabac, même combat. Dans tous les cas, voyez-vous, c'est la sécu qui passe à la caisse. Alors voici, en exclusivité pour CO2 Mon Amour, notre micro-couloir sur la fiscalité verte. Réaction d'un député UMP tendance libérale. La fiscalité écolo, c'est un truc de gauche. Laissez donc les marchés financiers s'occuper de tout cela. Député UMP, tendance sociale. Les pauvres ne seront pas obligés de payer plus cher et ça nous fera un truc de moins à faire avaler à nos électeurs. Député PS, tendance congrès de Reims. L'écologie, je connais pas bien. C'est qui ce monsieur Grenelle? C'est encore un qui veut prendre la tête du parti? Député vert, tendance consensuelle. Après délibération de nos 85 courants différents, nous sommes sur le point d'adopter une motion. Député anticapitaliste, il n'y en a pas. Les pauvres ne peuvent plus se payer de l'essence. Pour le grand soir, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de pique-nique. Sénateur, tendance Monsanto, fraîchement réélu pour la 15e fois. Quand est-ce qu'on autorise enfin la culture des OGM dans le jardin du Luxembourg? Président de l'Assemblée nationale, écoute Borloo, ton projet de loi bonus-malus, c'est du 100% recyclable. Mais oui, t'en fais pas, je le mets dans la poubelle jaune. Qui disait que nos hommes politiques n'avaient pas le souci de l'environnement? Allez, un petit sujet joyeux dans quelques sens, ce sera Jean-Marie Pelt qui enrichira ses propos d'uranium. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé dans le Tricastin, quelques petites bricoles comme ça en passant donc cet été. Et puis, on a parlé de glaciers. Allez, on y va tout de suite sur le glacier blanc avec Christian Couloumi.
En face de nous, on a un glacier de plateau, là-haut, le glacier du Pelvoux. Et puis dans les pentes, des espèces d'amas de glace qui sont accrochés, des glaciers de paroi, okay. Des glaciers suspendus, on dit aussi. C'est vrai qu'un glacier, on pourrait presque dire que c'est un être vivant. C'est de l'eau d'abord, de l'eau qui tombe sous forme de neige en altitude. Et avec le temps, elle se tasse, elle se transforme en névée, de la neige à gros grains, et puis elle devient de la glace. Et cette grosse masse pâteuse, composée de neige plus ou moins dense, hein, et ben elle va glisser parce que les montagnes sont en pente.
Glacier, donc acteur central de notre émission aujourd'hui. Je n'oublierai pas Elisabeth Laville avec qui nous compterons notre CO2. Et comme c'est une émission à thème, on parlera des surgelés. C'est amusant après les glaciers. Delphine Six est avec nous. Delphine, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes, alors d'abord, effectivement, on remercie nos petits camarades de France Bleu Isère, donc près de la gare de Grenoble. Vous êtes, et là c'est très développement durable, hein. Vous n'êtes pas déplacé, c'est parfait. Hein. On a la voie des ondes est formidable.
J'ai pris mon vélo et voilà.
Et c'est très bien. Et oui, non, et c'est vrai qu'en plus, Grenoble a beaucoup, beaucoup et continue à faire pour le vélo. Il faut quand même bien le souligner, ils sont très très en pointe dans ce domaine.
Tout à fait, oui.
Alors Delphine, vous êtes glaciologue, vous êtes chercheur au CNRS avec l'université aussi Joseph Fourier, parce que ce sont des laboratoires associés. Et puis vous avez écrit, là vraiment à quatre mains, ça fait 8 mains quand même, avec Patrick Vagnon, avec Christian Vincent, avec Bernard Francou, des gens aussi tout à fait compétents, un ouvrage formidable qui s'appelle Glacier, Force et Fragilité aux éditions Glénat. Vraiment beau livre avec des photos, mais pas seulement. J'avais envie de vous demander, Delphine, là, concrètement, votre dernière sortie sur le terrain, c'était où, c'était quoi ?
Ma dernière sortie, c'était la semaine dernière,
ouais.
Voilà, sur un petit glacier proche de Grenoble. Et je devais démonter les stations météorologiques qu'on avait installées sur le glacier pour tout l'été. Donc avant que la neige n'arrive, eh bien, on a démonté le matériel et on l'a ramené sur Grenoble, dans le laboratoire.
Alors votre boulot, c'est bien sûr d'ausculter ces fameux glaciers, mais aussi derrière, il y a des hommes, il y a des communes qui se trouvent sous les glaciers. Donc là, c'est important.
Ah bah, tout à fait. Alors les glaciers, on les étudie hein, pour deux raisons principales. Il y a vraiment un côté recherche, un côté indicateur du climat dont on va pouvoir reparler peut-être tout à l'heure.
Bien sûr.
Et puis il y a un côté effectivement lié à tout ce qui est activité soit hydroélectrique, soit risque naturel. Et c'est le cas en ce moment. Effectivement, on s'intéresse à certains glaciers qui peuvent présenter des risques potentiellement pour les populations.
Et glaciologue, c'est vraiment une science qui est récente parce qu'au 18e siècle, on n'imaginait pas que les glaciers variaient beaucoup. On voyait des blocs comme ça erratiques dans les plaines et puis on donnait l'explication divine du déluge, quoi. Bon, c'est donc assez récent, ça s'impose depuis quand cette science-là ?
Il y a quelques grands noms hein, de la glaciologie au siècle dernier qui ont commencé à faire des mesures, en Suisse tout d'abord, et puis chez nous, comme Joseph Vallot qui a commencé des premières mesures sur la mer de glace.
Qui n'est pas qu'un refuge, Jean Vallot, c'était un monsieur au départ.
Ah, c'était même une famille, hein. Ils étaient plusieurs, et notamment Joseph Vallot qui a fait énormément pour la glaciologie. Il n'avait pas besoin de gagner sa vie, en fait, il avait beaucoup d'argent, donc il a fait beaucoup de mesures un peu partout sur les glaciers de la vallée de Chamonix. Avec des mesures dont on se sert encore, c'est absolument ça qui est formidable. Donc on a vraiment des premières mesures qui datent de, par exemple, sur la mer de glace de 1890 à peu près.
Et quand on parle, on va dire, de la planète glace, là cette fois-ci on élargit au monde, qu'est-ce que ça représente les glaciers ?
Oh, ben alors les glaciers, si on parle des grandes calottes polaires, hein, Antarctique notamment, ce fameux continent centré sur le pôle sud, et Groenland, à eux deux, cumulent une grande partie hein, des masses englacées de la planète, hein, plus de 97%. Ah. Et puis le reste, c'est tous nos petits glaciers, donc à commencer par la Patagonie, bien sûr, puis l'Himalaya, l'Alaska, la Scandinavie, nos Alpes à nous, et puis quelques traces de glaciers, bien sûr, on pourrait parler du Kilimandjaro en Afrique, on peut parler des glaciers de Nouvelle-Zélande aussi, qui ont une certaine importance. Donc des glaciers disséminés un petit peu partout sur les 5 continents de notre planète, plus l'Antarctique, plus le Groenland.
Oui, en fait, il n'y en a pas en Australie, hein, je crois qu'il y a que là, parmi les continents.
Voilà, il n'y en a pas en Australie, il y en a en Nouvelle-Zélande en revanche, effectivement.
Donc mais on entend bien ce chiffre, il ne reste donc que 2 ou 3% pour les autres. C'est-à-dire que Antarctique plus le Groenland, autrement dit, effectivement, reposant sur du solide, hein, c'est ça, c'est 97-98% donc des glaces du monde, rien qu'à eux deux. Hein.
Ah, tout à fait. Ouais. Alors, c'est des équivalents en eau très très importants. Hein, si,
faut pas que ça fonde.
Si on faisait fondre tout l'Antarctique aujourd'hui, effectivement, on aurait un équivalent en eau de 70 mètres de montée du niveau des mers, ce qui est bien sûr, j'annonce pas la fonte de l'Antarctique hein, d'ici quelques années, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, effectivement, l'Antarctique, 70 mètres d'élévation du niveau des mers, le Groenland, 7 mètres à peu près, et puis le reste des petits glaciers, ce qu'on appelle tous les petits glaciers qu'on vient de citer, c'est à peu près entre 30 et 50 centimètres, on va dire.
Eh bien, vous voyez que vous faites bien d'apprendre à vos enfants à nager à la piscine, c'est formidable. Delphine, on vous retrouve dans quelques instants, ce sera Jean-Marie Pelt, et puis auparavant, grâce à Emmanuel Schupper, notre programmatrice, et voici FM. We bump against each other in a bag of rocks, but what we find? The times are getting rough, and you can feel that hate is all around. Thing would rather take or leave me on an island, you in the woods.
There's all the space and all the food. I saw a man whose burden had him crushed against the pavement, Lord. Passes by in mind and crossed his body like he was no more. I'll never ever walk again, he said, 'cause when you do, then you can't trust me. There's always something that will make you fail, but with a dream or two, and we would start again as if the things that we believed in were true. A dream or two, and we will smile again as if the things that we've been promised would come soon. Strange as you could hear the silence all around. I never saw the sun again, but didn't mind then, for this I knew, that prison or freedom can be the same, but with a dream or two, and we will start again as if the things that we believed in were true. A dream or two, and we will smile again as if the things that we've been promised would come soon.
Voilà, vous avez pu écouter cette chanson et peut-être cette émission grâce à l'électricité d'origine nucléaire. Jean-Marie Pelte, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Donc un sujet en général qui ne fâche absolument pas. Vos interrogations, Jean-Marie Pelte, sur le nucléaire, parce qu'il s'est quand même passé des petites choses un peu partout.
Oui, alors dans le monde entier, le nucléaire a le vent en poupe. On ne parle que du nucléaire. Ça ne dégage pas de gaz carbonique, donc ça ne réchauffe pas le climat. Comme il n'y aura plus beaucoup de pétrole, ça sera donc une énergie relais.
Alors, ce qu'il y a, c'est que derrière tout ça, il y a quand même aussi un marketing d'enfer qui essaie de nous faire croire que c'est une énergie renouvelable. Certains vont quand même jusque-là.
Oui.
Ce n'est pas une énergie renouvelable non plus.
Non, parce que l'uranium, on n'en a pas à perpétuité.
70 ans.
C'est, voilà, absolument, c'est ce que j'allais dire. Et puis deuxièmement, c'est une énergie qui n'est pas complètement propre et qui pose des problèmes. C'est pas une énergie du style des petites éoliennes qui tournent, qui ne font pas de vastes dégâts. Mmh. Là, il y a des questions qui se posent. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette précipitation fébrile sur le nucléaire dans le monde entier, c'est que ça se fait sans aucun débat. On a décidé de faire d'abord un EPR, réacteur de troisième génération, puis un deuxième EPR en France, sans que personne n'ait été consulté à ce sujet. Mmh. Eh bien, moi, ça me choque beaucoup. Ça me choque beaucoup parce que j'ai été très attentif cet été à la longue série d'incidents qui se sont succédés les uns après les autres et qui font qu'on se pose des questions. Bon, l'histoire de Tricastin, près de Bolène, l'usine Socatry, c'est Areva. Areva, c'est...
C'est l'empire.
C'est l'empire du nucléaire français, a rejeté 74 kilos d'uranium dans les ruisseaux. Bon... alors on a regardé ça de plus près, et puis voilà qu'on a découvert que la nappe souterraine était contaminée et que sans doute cette contamination remontait au moins à 30 ans. Mm-hmm. Ce qui veut dire que quand on commence à gratter un petit peu, on trouve des trucs. Ça, c'est le fameux problème, tant qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et quand on commence à chercher, on trouve des trucs. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors,
c'est pareil pour les maladies. Hein,
parce que, tout à fait pareil.
Puis on enfonce au thermomètre, de toute façon, on va trouver davantage.
Voilà. Oui. Alors après ça, il y a une autre filiale d'Areva, la Comurex, qui a détecté à Pierrelatte une fuite légère, certes, 200 grammes d'uranium qui se serait échappé en un an d'une canalisation. Mais ça pose la question de savoir si on arrive à maîtriser vraiment le confinement des éléments radioactifs. Ce qui m'a beaucoup plus inquiété, alors ça m'a vraiment inquiété, je le dis.
C'est en Allemagne.
Enfin. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. La tendance en Allemagne.
Fin juin, en Allemagne.
En Allemagne, c'était fin juin. Ouais. En Allemagne, il y a une tendance à revenir au nucléaire. Ça ne se produira pas avant les élections législatives de 2009, puisque la coalition au pouvoir avait accepté l'idée qu'il n'y aurait pas de retour au nucléaire en Allemagne. Mais aux prochaines élections, on va peut-être remettre ce postulat en cause. Que s'est-il passé ? Dans un site souterrain à Asse, où on entrepose des déchets faiblement et moyennement radioactifs, dans des milles de sel, qui sont réputés pour être géologiquement sûrs, puisque s'il y avait de l'eau, le sel aurait fondu, donc il est censé ne pas avoir de l'eau. Donc on ne risque pas une contamination en voyant les éléments radioactifs passer dans l'eau et passer dans la nappe phréatique. Et ben voilà, il y a de l'eau qui est rentrée. Et on pompe 12 mètres cubes d'eau chaque jour qui s'infiltre dans cette mine. Alors ceci pose le problème du stockage des déchets. Et il faut être clair, c'est un problème non résolu. On va partir sur le nucléaire à toute vitesse. On va obérer des centaines et des milliers de générations futures, et on ne se pose pas la question. Et moi, ça me choque profondément. Alors, on continue.
C'est-à-dire que l'on croit, on va dire, et pourquoi pas, mais c'est un pari incroyable sur l'avenir, sur le génie humain, sur nos arrière-arrière-petits-enfants, peut-être, qui trouveront ou qui ne trouveront pas la solution pour, vider la poubelle que nous avons remplie en quelques années.
Mais seront-ils encore dans une société technologique avancée comme la nôtre ? Qui sait que ça sera comment ? Personne n'en sait rien. Alors, le 22 août, il y a eu un incident dans le système de filtration d'une usine, d'un laboratoire plutôt, en Belgique, qui a émis dans le milieu de l'iode radioactif. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Elle n'a presque pas été médiatisée. Ça s'est passé le 22 août. On s'en est aperçu le 25 août. On a prévenu les habitants le 29 août, où on a dit, surtout, ne mangez plus ni fruits, ni lait, ni légumes, n'allez plus prendre les produits de votre jardin. Et on annonce le 29 août que la fuite n'est pas colmatée et qu'elle continue encore à émettre de l'iode radioactif. Bon, alors, en plus, alors ça, je n'ai pas compris, mais je pose des interrogations. On a classé cet incident au niveau 3 sur 7. 7, c'est Tchernobyl.
Oui.
Mais 3, c'est énorme.
C'est très rare. Absolument.
C'est très rare. C'est toujours 1 ou rien. Mais 3, c'est énorme. Alors, il s'est passé quoi exactement ? On en a très peu parlé. Et donc, quand on fait le bilan de tout ça en 2 mois, on a des points communs entre tous ces incidents. D'abord, un très long délai entre l'incident et la prise des mesures, donc un manque de réactivité qui devrait être immédiate, un long délai entre l'incident et l'information du public, donc un manque de transparence, une minorisation systématique des risques, enfin même quand on est au niveau 3, ce qui est stupéfiant, et un doute sur la sûreté du stockage. Bon, alors après ça, il faut dire ce qu'on pense du nucléaire. Nous sommes empêtrés avec le pétrole qui va devenir rare, avec le réchauffement climatique. Il faut passer à des énergies autres. Moi, je suis peut-être capable de comprendre qu'il faudra faire un peu nucléaire. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que le nucléaire, c'est le salut. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là du tout. Et je pense que nous devons aller vers les énergies renouvelables beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que nous le faisons vraiment.
Alors actuellement, c'est vrai qu'elle représente vraiment l'épaisseur du trait, hein, que ce soit dans le monde ou en France.
Oui.
Bon, à part l'hydroélectricité,
oui.
Ça, ce sont donc les barrages. Certains vont vous dire, oui, mais attendez, il faut savoir ce que l'on veut, parce que l'urgence, ça va être le réchauffement climatique malgré tout.
Oui.
Cela dit, on ne nous vend pas une politique aujourd'hui de véritable économie d'énergie,
non.
Ni non plus de grande efficacité énergétique,
non.
C'est-à-dire de gagner aussi en
non.
Gain.
Non. Non, et quand j'ai lu qu'on allait probablement demander beaucoup plus de documents administratifs pour installer une éolienne et qu'on rendrait l'installation d'une éolienne plus compliquée en raison du fait qu'elle pose des problèmes, non, elle ne pose pas de problème. C'est les technocrates qui sont nucléariste jusqu'au bout des doigts, qui voudrait bien pouvoir mettre un peu de côté les énergies renouvelables. Mais je ne crois pas trop au discours sur les énergies renouvelables.
Il y a aussi, il faut le dire quand même, Jean-Marie, un paquet d'affairistes sur le domaine des éoliennes qui n'ont rien à voir avec l'écologie.
Tout à fait.
On a eu toute une génération qui a été posée véritablement au dépit du bon sens. Donc maintenant, on essaye de faire autrement.
On a fait tout faux.
Voilà, on avait tout faux, ce qui fait que maintenant, vous avez effectivement des écologistes qui sont contre les éoliennes, etc. Ouais, donc ça n'a pas été simple. Il faut bien reconnaître qu'il y a des paysages aussi qui en prennent un coup de manière
incroyable. Tout à fait, tout ça c'est vrai. Mais les éoliennes, EDF aurait dû faire les éoliennes et pas laisser les petits capitalistes, les petits malins, gagner plein de fric sur les éoliennes. C'est une erreur d'orientation tout à fait fâcheuse.
On a des voix quand même qui sont tout à fait intéressantes et qui seront, on l'espère aussi, dans un véritable mix énergétique et non pas effectivement un tout nucléaire, mais un véritable mix énergétique. On a quand même du solaire qui ne passe pas forcément que par les panneaux photovoltaïques. On a la biomasse qui va être aussi extrêmement importante.
Oui.
On a un travail sur la géothermie qui est en train de se faire.
Et puis les hydroliennes maintenant aussi. C'est-à-dire l'énergie des courants dans la mer, au fond, pas en surface, mais en dessous, où on a le courant de la marée qui vient et qui va. Donc on a la géothermie aussi, quand je pense que le département du Val-de-Marne alimente 60 000 foyers en géothermie, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, il faut une volonté politique très forte.
Ben alors, une volonté politique très forte pour fabriquer de nouveaux EPR. Voilà,
Jean-Marie. Voilà.
Bien, ben écoutez, merci à vous et puis donc à très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Mon vendeur de voitures qui cherche à me fourguer ses 4x4 pourris en promo qu'il a sur les bras pour faire de la ville. Je lui dis que c'est un ringard, tout de suite ou bien j'attends un peu. CO2 mon amour, avec Denis Chessou.
Comme un igloo, fin où j'ai en pesé, ultra civilisé, je me tiens bien en surface. Mais qui me foudre et qui me prend le pas, se lâcher sans effroi pour le grand nom de soi. Je déconne, mon idée sur le bien m'assomme, je ne crains plus le regard. Personne, à cette fièvre je m'abonne, pour découvrir l'amour seul. Un peu poison, dans la fibre nerveuse, qui me met en deçà. Ascensionnel qui pénètre mes sens, si diffuse jusqu'au ciel, je m'adonne. Pour cela, je ne crains plus personne. Et je n'attendrai plus qu'on sonne. C'est en ton sourire que je soupçonne. C'est en toi que l'amour se leve. C'est en toi que l'amour se leve. Je sais.
Ah bah oui, on n'hésite pas. Après, comme un igloo des Sierras d'Ao, bien sûr, on revient à nos glaciers avec vous, Delphine Six, depuis France Bleu Isère, parce qu'évidemment, vous êtes près des montagnes. On va juste rappeler ce que vous avez dit donc tout à l'heure. Si on ajoute Antarctique plus Groenland, c'est 98% ou 97% des glaces présentes sur la surface de la planète. Donc il reste 2-3% pour le reste. On a 160 000 glaciers dans le monde. On en a à peu près 3 000 dans les Alpes. Et bien sûr qu'on va parler de ces fameux reculs. Donc on va parler du climat. Mais juste une petite question. Entre le moment où la neige va tomber, Delphine, sur ce qu'on appelle donc, la zone d'accumulation, pardonnez-moi, qui nourrit donc le glacier. Et puis, quand elle se transforme en neige, il se passe combien de temps? Je sais que ça va dépendre des glaciers, mais...
Quand elle se transforme en glace, alors ça dépend bien sûr de la température, hein, de l'air essentiellement autour de ces glaciers. Donc, dans les Alpes, il faut compter entre 5 et 10 ans avant que la neige se transforme en glace. En Antarctique, il faut compter beaucoup plus. Il faut une centaine d'années à peu près pour se transformer en glace.
Alors, nous sommes, on le sait, en permanence, il y a des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, suivant un cycle, on va dire, à peu près de 100 000 ans. Et ça, on le sait depuis combien de temps? À peu près 700 000 ans, à peu près?
Alors, on a des enregistrements, effectivement, très fiables, dans les carottes de glace, justement, qu'on peut extraire des plateaux antarctiques, notamment. Depuis 700 000 ans, on a un cycle relativement régulier, effectivement, de grands cycles glaciaires, tous les 100 000 ans, comme vous venez de le dire, oui.
Et donc, on va voir avec vous quels sont les facteurs, on va dire, qui amplifient les variations, hein, qui peuvent exister aujourd'hui, quelle va être la part des gaz à effet de serre, avec toute la prudence que vous avez, vous, mais quand même, vous assistez quand même à beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller tout de suite dans le massif des Écrins. Donc, on va être dans le très beau département des Hautes-Alpes et on va être au cœur du parc national, dans le Glacier Blanc. Et ce cœur du parc national, c'est le bureau, je dirais, de Christian Couloumi. Je vous disais qu'il y avait 3000 glaciers dans les Alpes. Je crois qu'il y en a plus de 250 dans les Écrins. Hein. C'est quand même important, hein, ça, Delphine, hein, comme...
Oui, bien sûr, il y a pas mal de glaciers dans les Écrins. Maintenant, c'est finalement des petits glaciers qui nous restent dans les Écrins, à part des grands, évidemment le glacier Blanc qui est un grand glacier. C'est surtout le massif du Mont Blanc chez nous qui regroupe une grande quantité de glaciers. Et puis quelques glaciers en Vanoise aussi, qu'il ne faut pas oublier, ou dans les Grandes Rousses, tout à fait.
Et il y a quelques dizaines d'années, donc, il fallait une heure pour atteindre le front du glacier Blanc, c'est-à-dire depuis le pré de Madame Carl, pour ceux qui connaissent, en partant de Valouise, et d'Elfroid au-dessus. Aujourd'hui, il faut quand même plus de 2 heures. Alors, promenade avec Christian Couloumi, donc chef de secteur et garde-moniteur du parc des Écrins, et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien sûr, on revient après avec vous, Delphine.
Bien sûr.
On est carrément au pied de la barre des Écrins, du mont Pelvoux, des montagnes absolument magnifiques. Aujourd'hui, comme souvent dans notre région, il fait un temps splendide, le ciel est très très bleu.
Voilà, petit passage avec de la neige, Christian.
Ben oui, on est près du glacier, Denis, donc il y a de la neige encore cette année.
On va pas grimper quand même jusqu'en haut, faut pas exagérer. En revanche, si on se retourne, c'est intéressant de voir qu'il y a différentes formes de glaciers. Là, celui de glacier Blanc, comment on l'appelle? C'est un glacier
C'est un grand glacier de vallée, il fait 5 km de long. C'est le plus gros glacier au sud des Alpes. Et en face de nous, on a un glacier de plateau, là-haut, le glacier du Pelvoux. Et puis dans les pentes, des espèces d'amas de glace qui sont accrochés, des glaciers de parois, des glaciers suspendus, on dit aussi. On a des glaciers de couloir également, si vous regardez sur la droite, entre les deux rochers là-bas, c'est un couloir. La glace, elle reste là-dedans tout le temps. C'est vrai qu'un glacier, on pourrait presque dire que c'est un être vivant. C'est de l'eau d'abord, de l'eau qui tombe sous forme de neige en altitude. Et avec le temps, elle se tasse, elle se transforme en névée, de la neige à gros grains, et puis elle devient de la glace. Et cette grosse masse pâteuse, composée de neige plus ou moins dense, et ben elle va glisser parce que les montagnes sont en pente. Et en descendant, le glacier va connaître comme de l'eau un petit peu, il va y avoir des cascades, il va y avoir des remous, et ça va se traduire par des fractures dans la glace, qu'on appelle des séracs ou des crevasses. Mmh. Et au cours de sa descente, et ben il va fondre parce que la température, qui est beaucoup plus froide en altitude, va se réchauffer à mesure qu'on descend. Et à ce moment-là, la glace va fondre dans sa surface.
On voit ce torrent avec cette couleur gris brunâtre. parce que bien sûr elle charrie plein d'éléments de la montagne.
Là c'est le glacier qui est en train de, sous nos yeux, de fondre. Et en même temps, l'eau emporte les matériaux que le glacier a d'ailleurs raboté, cette espèce de farine des glaciers. Ouais, la glace, en frottant, elle emprisonne des pierres, et ça a une force énorme. Elle frotte sur les rochers, elle fait une espèce de farine qui est emportée par le torrent. On voit très bien aujourd'hui qu'il fait chaud. Le glacier, là, il est en train de faire une sacrée cure d'amaigrissement.
Alors, ce qu'on appelle les moraines, Christian, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, les moraines, ce sont des matériaux qui sont charriés par le glacier, mais là, ils ne sont pas emportés par l'eau.
D'accord.
Ils sont véhiculés sur le glacier, et puis ils sont rejetés soit sur le côté, au moment où ça fond, soit sur le devant, tout en bas du glacier. À ce moment-là, on dit qu'il s'agit d'une moraine frontale. Et puis sur le côté, ce sont des moraines latérales. Alors ce sont des marqueurs, parce qu'on voit très bien les moraines ici, sur les côtés, qui sont beaucoup plus hautes que le glacier. Et elles nous indiquent très précisément la hauteur qu'occupait le glacier il y a quelques dizaines d'années seulement, puisque fin du siècle dernier, le glacier était déjà beaucoup plus gros. À l'endroit où nous sommes ici, le glacier a reculé de 450 mètres. 450 mètres de long et peut-être 80 mètres d'épaisseur. C'est énorme.
Alors Christian, aujourd'hui, on met des sondes, qu'est-ce qu'on fait pour...
On lui plante des thermomètres un peu partout à ce pauvre glacier.
Bien sûr.
Au mois de mai, au moment où la neige elle est le plus épais, c'est-à-dire au moment où il a fait ses réserves de l'hiver. Et à ce moment-là, on fait des trous dans la neige. On mesure exactement quelle épaisseur de neige, quel poids, valeur en eau, il est tombé dans l'hiver. Et puis dans le trou qui a été fait comme ça, on glisse des bâtons qui font 2 mètres de long, qu'on superpose. Parfois la neige elle est épaisse de 5-6 mètres. Hein. Donc on superpose comme ça les bâtons qui ont des couleurs différentes. Et on repasse tous les mois pour voir quelle est la couleur du bâton qui sort. On mesure l'ablation, ça veut dire la fonte en surface, de ce glacier. Alors s'il y a le bâton jaune qui dépasse de 5 cm au mois de juin, on repasse en juillet, si ça se trouve, il sera tombé et c'est déjà le bâton bleu qui va sortir dessous.
D'accord.
Et là, on peut mesurer très précisément. Ça ne mesure pas le glissement du glacier, ça mesure sa réduction d'épaisseur.
On est dans quelle pierre, là, ici ? Quelle roche ?
C'est des granites et du gneiss, c'est des roches cristallines. C'est des roches... C'est des grands massifs cristallins des Alpes. Hein. Il y a le Mont Blanc, il y a les Écrins, il y a le Beldon, je crois. Enfin voilà, je ne vais pas faire mon cours de géologue, je ne suis pas géologue.
Non, mais...
Attention, Denis, là.
Ouais, caillou.
Attention,
caillou.
Ça craint.
Christian Coulomy, on retrouve aussi des tas de choses dans les glaciers. On peut retrouver des ossements, on peut retrouver bien sûr des piolets, on peut retrouver des avions.
Eh bien ici, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, un guide de la vallée a signalé un avion, une aile d'avion qui dépassait du glacier. Alors,
Vous êtes monté.
Moi, je suis tout de suite allé voir, hein, bien sûr, c'est un événement assez intéressant. Et j'ai pris des photos et on a fait un petit peu des recherches. Et un autre guide se souvenait, puisqu'il était là à ce moment-là, que Henri Giraud, qui est un pilote, un acrobate un petit peu de l'aviation, s'était posé tout au bout du glacier blanc, c'était avant le parc, hein, il avait le droit à l'époque, ce brave homme, et ce jour-là, il y avait jour blanc, on dit ici, vous savez, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la différence entre le ciel
D'accord.
et la terre, parce qu'il y avait du brouillard. Et il est tombé, il a accroché l'avion, et je crois qu'il s'est un petit peu fait mal, et l'avion restait là. Et 40 ans après, le glacier a d'abord ingéré cet avion,
ouais.
et puis
il, l'a congelé,
il lui a fait faire 2 km
bon, oui.
hein, dans le ventre, et puis il l'a digéré, il y a 2 ans, et puis l'an dernier, il en a redigéré un autre morceau,
D'accord.
le moteur. Mais il en reste encore, là, Denis. On va regarder si ça se trouve.
Bon.
On va trouver quelque chose.
On va retrouver un bout de pilote, je crois. Voilà, on voit quand même ce travail avec une force absolument incroyable, et le résultat va se retrouver en fait dans la Méditerranée, à travers la Durance, à travers le Rhône.
Oui. Le torrent du glacier blanc, qui est sous nos yeux ici, eh bien, est un affluent. Non négligeable d'ailleurs, de la vallée d'Adurance, puis du Rhône.
Ouais.
Ouais, ça retourne à la mer.
Alors vous,
Christian, vous qui affectionnez ce lieu, vous l'avez fait, je ne sais pas, une centaine de fois, pas sûrement. Qu'est-ce qui vous plaît toujours, même si on voit effectivement ce glacier qui se réduit gentiment, pas encore en peau de chagrin, il y a encore un peu de marge, mais quand même.
Oui, ça, c'est vrai qu'il se réduit, que ça fait de la peine. J'étais pas venu pendant 2-3 ans, je suis revenu, ça m'a fait un choc, tu vois. Alors, ce qui me plaît, moi, ici, je vais vous dire, je ne sais pas. Hein, c'est au fond de moi, et quand je suis là, je suis bien, tout simplement ouais, ça. J'ai pas d'explication à donner, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui est comme moi. Et ceux qui connaissent pas la montagne, je les invite à marcher, à faire un tout petit effort pour aller voir un jour un glacier, un lac, à partir d'un sentier, en ayant marché un petit peu, s'asseoir, de regarder, d'écouter et de profiter. Et vous verrez, comme moi, je pense que vous serez charmé par la montagne.
Un peu d'air frais et encore, c'est vrai qu'il faisait chaud même à 2000-2500 mètres d'altitude avec Christian Couloumi. Si vous y allez, vous évitez quand même les baskets, les tongs et puis d'y aller torse nu parce qu'on a vu ça nous en montant, c'était pas triste. Voilà, donc réchauffement climatique et glaciers, on en parle dans quelques instants avec Delphine Six. Et avant, on va aller sur la colline avec les Beatles.
Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
Descend de la colline sur France Inter pour remonter sur les glaciers avec Delphine Six, glaciologue, je le rappelle, avec ce très bel ouvrage « Glaciers, force et fragilité » aux éditions Glénat. Alors depuis toujours, on sait que les glaciers fascinent, ils attirent, ils effraient, un peu comme les volcans. Caractère sacré pour les uns, force brute de la nature pour les autres, mais qui rendent la vie possible en apportant de l'eau. Vous prenez une ville par exemple comme La Paz en Bolivie, qui est une des plus hautes capitales du monde, je crois qu'elle est perchée entre 3003 et 4100 mètres, eh ben, elle dépend entièrement des glaciers environnants. Donc derrière tout ça, il y a évidemment une économie. Quand on regarde la Suisse aussi, Delphine Six, moi, sur le chiffre sur la houille blanche est très, très impressionnant. Hein.
Oui, effectivement, les Suisses sont très, enfin, ils font énormément de ressources hydroélectriques. Hein, ils captent énormément l'eau des glaciers pour alimenter leur barrage. Donc, leur production électrique dépend en grande partie, effectivement, des barrages.
Et quand on sait qu'il y a à peu près 30 à 40% de la population mondiale qui se trouve non loin de l'Himalaya, là, on se dit que le rôle des glaciers est aussi très fort.
Alors, le rôle des glaciers en Himalaya est très fort, effectivement, pourrait énormément servir pour tout ce qui est irrigation, pour que, tout ce qui est ressources en eau, hydroélectricité. Actuellement, l'Himalaya, le problème, effectivement, c'est ce manque de mesures, ce manque de données qu'on a sur les glaciers, donc pour essayer d'évaluer le potentiel d'eau que l'on pourrait avoir sur ces glaciers. Donc l'Himalaya est un formidable réservoir, ça c'est sûr.
Alors on a eu tout à fait récemment, puisque ça date du 1er septembre, un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a été publié, et disant que la plupart des glaciers du monde risquent de fondre d'ici la fin du XXIe siècle si le rythme actuel du changement se poursuit. Alors, on sait qu'il y a toujours eu des variations naturelles hein, entre périodes de glaciation et donc de réchauffement. Mais là, quelle est, vous, effectivement, votre expertise en tant que scientifique ?
Alors, on a commencé, bien sûr, à faire un peu à évaluer hein, quel va être cet impact du changement climatique sur nos glaciers. C'est extrêmement difficile, ne serait-ce que parce qu'on a déjà une grande marge de manœuvre sur les températures, sur, par exemple, l'augmentation des températures qui est annoncée. On annonce entre plus 1,5 et plus 6 degrés. Donc, effectivement, si on prend 1,5...
D'ici la fin du siècle. Hein,
d'ici la fin du siècle,
tout à fait. Du GIEC.
Hein, ouais, donc, effectivement, cette barre d'incertitude est importante. On a peu d'informations sur l'évolution des précipitations. On a vu tout à l'heure qu'un glacier, bien, c'était une zone d'accumulation de précipitations et puis ensuite toute une période de fonte. Donc c'est sur ces deux facteurs-là, déjà, on a déjà beaucoup d'incertitudes. Globalement, on a réussi quand même à faire quelques calculs, quelques sorties de modèles sur nos glaciers. Et on s'est aperçu que, par exemple, pour les Alpes, pour l'ensemble des Alpes, eh bien, tous les glaciers qui ne sont plus alimentés au-dessus de 3400 mètres risquent de disparaître. Si vous prenez en France le nombre de glaciers qui ont une alimentation, une zone d'accumulation au-dessus de 3400 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Donc la mer de glace, évidemment, ce grand glacier, notre plus grand glacier français, hein, à Chamonix, lui, va survivre. Mais d'autres glaciers, que ce soit dans les écrins, que ce soit en Vanoise et même d'ailleurs dans le massif du Mont-Blanc, vont avoir tendance à disparaître.
Et ce qui est très intéressant, puisque là vous citez la mer de glace, donc à côté il y a son petit copain, le glacier des Bossons. Ils ont évidemment des profils qui sont différents, ils ont des pentes différentes, mais ils réagissent effectivement quand même très très différemment. C'est-à-dire qu'ils ont un temps de réponse qui est très variable.
Bah disons que le glacier des Bossons est intéressant à ce titre. C'est un glacier extrêmement pentu, donc qui descend extrêmement bas, depuis le sommet du Mont Blanc jusque très bas dans la vallée, à peu près jusqu'à 1400 mètres. Donc c'est un glacier qui réagit très vite au climat. C'est-à-dire que si on a par exemple quelques années avec des précipitations neigeuses importantes, ou si on a des années avec une température estivale relativement élevée, bah ce glacier va réagir très vite. La mer de glace est un glacier qui est beaucoup plus plat. Le dénivelé est important, mais la pente du glacier est plus faible. Donc c'est un glacier qui met plus de temps à réagir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de l'information qu'on voit très souvent d'ailleurs un petit peu partout. C'est de dire, bah tiens, mon glacier a reculé, donc évidemment le climat se réchauffe. Non, il faut faire très attention à cette information du recul des fronts des glaciers qui effectivement peut être tout à fait décalé pour certains glaciers.
Mais quels sont quand même les principaux facteurs ? Bon, on sait qu'on a, mais ça régulièrement, on n'était pas né et puis on mourra comme ça, les variations, on va dire, de l'insolation de notre planète, c'est-à-dire liées à l'éloignement du Soleil, à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Ça, c'est une chose qui est évidemment qui est importante. On a aussi évidemment tous les courants, on le sait, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, parce que c'est quand même le premier gaz à effet de serre, c'est quand même la vapeur d'eau.
Bien sûr.
Mais pour les glaciers quand même, est-ce que on arrive à faire une corrélation ou non, d'ailleurs, où on a encore, vous l'avez dit, beaucoup d'incertitudes, entre les gaz à effet de serre, le fameux CO2, mais enfin tout le reste aussi, mon amour, et la fonte des glaciers? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui joue avec des étés plus chauds, de toute façon, avec plus de fonte des glaciers en été?
Alors, il faut bien sûr faire attention à quelle période de temps on regarde. Là, si on regarde effectivement sur notre dernier siècle, puisque c'est celui où on a le plus d'informations, hein, moi, je vais pas parler des grandes glaciation passée, je vais vraiment parler justement de plutôt notre petite déglaciation qu'on pourrait subir actuellement. On peut remarquer par exemple que depuis 25 ans, effectivement, on observe une décrue des glaciers qui est généralisée dans l'ensemble des Alpes et d'autres massifs du monde. Et ce recul généralisé, on ne l'attribue pas à une diminution des précipitations en hiver. C'est-à-dire que globalement, notre glacier, il va continuer en hiver à peu près de la même façon depuis 25 ans à prendre du volume. En revanche, en été, depuis 25 ans, il perd de plus en plus de volume, lié liée à une température estivale, effectivement, qui augmente. Les séries de température augmentent relativement fort. Et depuis 25 ans, ce décrue des glaciers alpins est en grande partie liée à l'augmentation des températures estivales. Dire que l'augmentation des températures estivales est reliée effectivement au gaz à effet de serre, c'est encore une autre question qui est la part de d'autres spécialistes scientifiques. Mmh. Et effectivement, il y a un lien qui est relativement fort. Mais nous, pour l'instant, on observe une décrue des glaciers liée à une augmentation des températures. On reste assez prudent, comme beaucoup de scientifiques, sur la relation de l'augmentation des températures estivales par rapport au gaz à effet de serre. Il faut évidemment beaucoup de recul. On commence à en avoir beaucoup, donc cette relation est de plus en plus certifiée et justifiée, mais il nous faut encore un petit peu plus de marge.
Alors, quelques informations. Les glaciers alpins étaient plus courts qu'à l'heure actuelle. Ça, c'était vers 1200 avant Jésus-Christ, même si on n'avait pas le thermomètre qui a dû être inventé, je pense, au 18e siècle à peu près.
Oui, tout à fait.
Voilà, on a quand même d'autres éléments avec les pollens, les cernes des arbres, les carottages, etc. pour nous dire. Ils étaient dans une situation similaire au début de l'ère chrétienne qu'aujourd'hui. Mais lorsque l'on voit, par exemple, effectivement, le glacier des Bossons, 671 mètres de recul en 22 ans, 350 mètres pour la mer de glace, on pourrait effectivement continuer le catalogue comme ça. Est-ce que pour vous, alors, c'est un point de non-retour ou pas? Est-ce que c'est exceptionnel ou bien non? On est dans une fourchette, moyenne, mais avec le recul que vous avez ou...
Oui, parce que ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a eu sur le siècle, il y a eu des périodes de réavancée et des périodes de très fortes décrues, par exemple dans des années 40 aux années 55, qu'on n'attribuait d'ailleurs pas à une augmentation des températures. Nos glaciers perdent beaucoup de volume. Maintenant, qui dit augmentation des températures dans le futur, dit aussi augmentation de l'humidité et donc des précipitations. Donc a priori, on risque d'avoir de plus en plus de précipitations. Alors la limite pluie-neige va augmenter aussi, mais pour certains gros glaciers, il est tout à fait possible que les précipitations hivernales augmentent et donc que nos glaciers, dans un premier temps, reprennent en fait un certain volume. Donc il faut bien essayer de distinguer, et c'est là toute la difficulté, effectivement, ce qui est tout à fait naturel, comme par exemple ces variations du climat, cette augmentation de volume des glaciers qui a été même dramatique pour certains habitants des vallées dans les années, aux alentours, avec un maximum aux alentours des années 1850, et puis une décrue pratiquement généralisée depuis, avec des petits soubresauts, effectivement, des années, par exemple, 55 aux années 80, les glaciers ont repris du volume. C'est d'ailleurs à cette époque-là où les précipitations en hiver étaient importantes, où on a commencé à construire toutes les stations de ski. Donc il y a eu des périodes il y a eu des événements tout à fait naturels dans l'histoire du climat. Et puis, on a tendance, effectivement, à se diriger vers des choses de moins en moins naturelles.
Alors, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on sait qu'en montagne, le réchauffement climatique sera plus marqué, de 0,7 depuis 1982, 0,7 degrés. Parlons quand même maintenant des mastodontes, parce que là, effectivement, on le rappelle, 2-3% pour tous les glaciers de montagne. Mais est-ce que pour vous, le danger doit venir d'où? Du Groenland, ici, ou ça vient de l'Antarctique? Le Groenland a l'air de fondre quand même très, très vite, quoi.
Oui, le Groenland, effectivement, va connaître des événements de fonte bien plus importants que l'Antarctique. Pour l'instant, l'Antarctique, son bilan est relativement équilibré, à part peut-être l'Antarctique de l'Ouest, proche de la péninsule. En Antarctique de l'Est, globalement, l'ensemble des mesures et des observations satellites nous indiquent que l'Antarctique est à peu près avec un bilan équilibré. Au Groenland, on observe des zones de fonte proches de la côte, effectivement, des accélérations des glaciers, donc de nombreux icebergs, effectivement, qui se jettent dans la mer. Donc c'est un phénomène qui est effectivement très important. En revanche, j'allais dire, c'est des phénomènes qui se situent loin de toute population. Si vous prenez l'Himalaya, donc c'est peut-être effectivement des fontes qui seront moins importantes qu'au Groenland, mais en revanche, c'est la menace sur d'énormes populations.
Oui, parce que dans un premier temps, on va avoir de la fonte, donc c'est-à-dire qu'on aura trop d'eau et des inondations, et puis dans un deuxième temps, on risque d'avoir justement un manque d'eau et des sécheresses.
Oui, alors ces glaciers présentent de gros risques naturels. Je reviens donc à l'Himalaya, par exemple la formation de lacs en amont des glaciers liés au recul des glaciers. Des lacs qui peuvent se vidanger à tout moment. On a aussi des risques potentiels de grosses chutes de sérac. Donc, que ce soit en Himalaya, que ce soit dans les Andes, que ce soit même plus proche de chez nous, dans les Alpes, c'est le cas actuellement de certaines de nos études, il y a des risques naturels associés à ces glaciers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne directement.
Mais alors, si le Groenland, on va dire, se vide, en tout cas, il y aurait quand même aussi, on rajoute de l'eau, contrairement à l'Arctique, où là, évidemment, c'est comme les glaçons, donc ça ne jouera pas sur le volume, mais le Groenland va rajouter de l'eau, ça va quand même faire monter le niveau des mers.
Ah, tout à fait. On annonce d'ici 2100, hein, les rapports annoncent à peu près 90 cm d'élévation du niveau des mers en plus. Alors pour beaucoup de gens, 90 cm finalement, ça paraît pas énorme.
Oui, si vous habitez en Camargue ou dans les Landes, par exemple.
Voilà, exactement.
Ou à Dunkerque, on sait très bien.
Au Bangladesh. Bien sûr, globalement, ouais. On annonce à peu près 200 millions de personnes hein, qui habitent entre 0 et 1 mètre de dénivelé sur la planète. Donc pour eux, pour ces 200 millions de personnes, si vous rajoutez un mètre ou un peu moins même d'élévation du niveau des mers, ça risque de poser problème. Et cette élévation du niveau des mers liée effectivement à la fonte de tous nos petits glaciers et puis à l'expansion des océans, puisque si la température augmente, eh bien l'océan évidemment va se dilater.
Eh bien écoutez, un grand merci Delphine Six. On reviendra parce qu'on avait un peu l'intention de faire aussi un sujet sur un glacier, cette fois-ci en reportage avec vous un peu plus tard, sur ce sujet, parce que ça, vraiment on fait le point. Glacier, force et fragilité aux éditions Glénat. Et puis vous allez rester avec nous parce que cette émission évidemment tout à fait pétillante est à thème. Nous allons compter notre CO2 avec Elisabeth Laville. On va parler de quelque chose de froid.
On n'achète pas n'importe quoi. Achetons responsable avec Elisabeth Laville. Et puis, on comptera notre CO2 pendant qu'on y est.
Eh bien, on va continuer à faire nos courses avec Elisabeth Laville. Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Denis.
On va calculer notre taux d'énergie, notre taux de CO2 lorsque l'on achète. On rappelle qu'on a quand même une belle influence les uns et les autres avec nos actes d'achat. Et on va s'intéresser aux surgelés. Souvenez-vous, la canicule de 2003, les rayons surgelés étaient pleins parce que là, on avait un petit peu de fraîcheur. Donc là, on se dit, c'est formidable. Mais quand même, en temps normal, il vaut mieux savoir ce que l'on achète. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les surgelés?
Ce qu'on peut dire déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est devenu le congélateur et son accessoire indispensable micro-ondes.
Oui.
Quand même, sont devenus,
oui, se
sont imposés en 30 ans comme des accessoires indispensables, notamment de la vie urbaine et active. Ça va être moins vrai en province, quoique, et en milieu plus rural. Mais ils sont aussi emblématiques en fait, de l'impact de nos modes de vie modernes sur l'environnement, puisqu'en fait, tout au long de la chaîne agroalimentaire dont ils sont indissociables, il y a la consommation d'énergie, émission de CO2 à chaque fois. Donc je ne parle même pas de la production, je vais en parler peu, mais de la production agricole, mais ensuite la création du froid, la surgélation, le maintien du froid tout au long de la chaîne de production, les process de transformation, préparation, l'emballage, etc.
Donc là, on sent vraiment bien l'affaire extrêmement énergivore, comme on dit.
Ah bah oui, alors en moyenne, on dit qu'il faut 10 fois plus d'énergie pour un produit surgelé que pour son équivalent frais. Hein. Donc ce qui amène Jean-Marc Jancovici d'ailleurs à dire avec humour que dans une pizza surgelée, il y a bien plus de pétrole que de jambon.
Oui, au bout du... bien sûr.
Voilà, ça tombe sous le sens.
Que ça représente d'ailleurs en termes de dépenses, que l'on comprenne bien
En termes de dépenses, c'est assez important, puisque aujourd'hui, dans le budget alimentaire des Français, les produits, je l'appellerais bruts, hein, c'est-à-dire des légumes, des fruits frais en vrac, de la viande fraîche, etc., ne représentent plus que 20% de l'ensemble du budget alimentaire.
Oui, c'est peu. Oui.
Ça veut dire que 80% sont consacrés à des produits alimentaires, on va dire, industriels, ou en tout cas issus de l'industrie agroalimentaire.
Il n'y a pas que les surgelés, on est bien d'accord.
Il n'y a pas que les surgelés, il y a les surgelés, il y a les pâtes, les conserves, les plats préparés, les biscuits, les confiseries, les boissons, etc., etc.
Alors maintenant, si on fait le bilan environnemental, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce bilan?
Ce qu'on peut dire en général, là encore, ça ne concerne pas que les surgelés, mais les produits industriels en général, c'est que les 3/4 de l'énergie nécessaire pour fabriquer ces produits et les amener jusqu'à nous sont consommés après la production agricole. Mmh. Donc vraiment, du fait qu'ils sont industriels, surgelés, emballés, etc., etc. Donc les phases de transport, transformation, emballage, conservation, parce que notamment quand on est surgelé, il faut les conserver dans le camion, dans le magasin, ensuite à la maison, etc.
Si on prend, on va dire, 500 grammes, donc une livre de fruits ou de légumes, surgelés, pas surgelés, qu'est-ce que l'on peut dire?
Alors justement, on va comparer surgelés et puis par exemple en conserve.
Oui.
Il y a une étude américaine qui a été faite qui montre que sur une livre de fruits et légumes surgelés, il faut 825 calories pétrole pour sa transformation et sa préparation, à quoi il faut ajouter à peu près 600 calories pétrole supplémentaires pour l'emballage, et ça compte pas l'énergie nécessaire à la réfrigération durant le transport dans les magasins à domicile.
D'accord.
Parce que finalement, une partie pas négligeable de la consommation de votre frigo, de votre congélo, devrait être comptée dans le bilan total des produits qu'on est obligé d'y placer.
Et si on regarde une boîte de conserve?
Alors, si on prend la même chose, boîte de conserve, une livre similaire de fruits et légumes en boîte de conserve métallique, 261 calories pétrole pour la production, mmh. Et puis quand même 1000 calories pétrole pour l'emballage, parce que la boîte de conserve est un métal, enfin un packaging, un emballage qui a une haute intensité énergétique.
Mais ça se recycle bien.
Ça se recycle bien, c'est ça l'avantage. Puis là, pour le coup, ça coûte moins cher à recycler qu'à produire de manière brute.
Bon, donc on va privilégier bien sûr les produits frais.
Oui, donc mais ce qu'on a vu là en comparant les deux, c'est qu'on est à peu près dans les mêmes bilans énergétiques.
Ouais,
si on prend les légumes surgelés et les fruits et légumes en boîte de conserve. Donc l'idée, c'est globalement surgelé ou aliments industriels. Il y a probablement un petit plus du côté du surgelé, enfin plus de consommation d'énergie et plus de CO2, donc un petit moins peut-être environnemental, du fait de la nécessité d'avoir la chaîne, de préserver la chaîne du froid tout au long de la vie du produit. Voilà, alors un truc qui arrange rien, c'est que de manière croissante, et c'est notamment vrai pour le surgelé, ces produits sont proposés en portions individuelles, sachets fraîcheur, sachets individuels, etc. Donc ça rajoute de l'emballage.
Voilà, donc des informations pour mieux choisir. Merci beaucoup Elisabeth Laville, et donc je vous renvoie à cet ouvrage « Achetons responsable », coécrit avec Marie Balmain aux éditions du Seuil. Au revoir Elisabeth.
Merci Denis, au revoir.
Il y a aussi un site, hein, mescoursespourlaplanete.com, mescoursespourlaplanete.com. Cet ouvrage, Glaciers, Force et Fragilité, c'est étonnant parce que vous avez tous les glaciers du monde, hein, qui sont non pas répertoriés, mais les plus importants, aux éditions Glénat. Merci à Michel Bertin, à Alain Gadon à la technique, à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza et à Xavier Pestugia qui réalisaient l'émission. Et notre cyber-documentaliste, vous avez plein de sites sur celui de CO2 Mon Amour, Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2.